Vous écoutez Radio Panique.
Bonjour, chers amis auditrices et auditeurs, et soyez les bienvenus pour l'émission mensuelle Le Chariot. Moi, Anna, suis toujours très heureuse de notre rendez-vous chaque premier lundi du mois à 14h30 sur Radio Panique 105.4 FM. J'ai le plaisir de vous raconter les histoires qui accompagnent le tarot, ainsi que ses anecdotes et curiosités. Pour animer notre émission d'aujourd'hui, nous avons un invité que vous connaissez déjà. Il s'agit de Guido Gelabel, le propriétaire du Tarot Museum Belgium, qui se trouve à Malines. Je vous invite à écouter les émissions précédentes sur les podcasts de Radio Panique pour connaître un peu plus au sujet de ce musée. Aujourd'hui, Guido nous parlera au sujet d'un grand personnage lié au tarot. Il s'agit d'Oswald Wirth, un des noms que nous n'avons pas encore évoqué dans notre émission, mais je vous avais promis, et le voilà. Oswald Wirth est un des plus importants noms dans les histoires qui accompagnent le tarot. Donc, nous allons découvrir avec Guido l'histoire de ce monsieur franco-suisse et son œuvre liée au tarot. À la fin de l'émission, nous allons parler de l'arcane du numéro 16, nommé la tour ou la maison Dieu. Nous avons écouté un extrait de Liberame du Requiem de Verdi avec la voix de la soprano Shirley Verrett. Passons tout de suite à l'écoute de la première partie de l'interview avec Guido Gelabel. Alors Guido, peux-tu nous raconter le début de l'histoire d'Oswald Wirth?
Oui, Oswald Wirth, il est né en Suisse à 1860 et pour ça, il y a beaucoup de gens qui pensent que son nationalité est suisse. Qui n'est pas vrai. Ses parents étaient français. Et en Suisse, quand tes parents sont français, ta nationalité reste française, même si tu es né en Suisse. Ses parents, ils sont partis en France parce qu'ils avaient des problèmes politiques. Donc ça, c'est la raison. Donc après, il est revenu en France et il est devenu secrétaire le fameux Stanislas de Guetta. Stanislas de Guetta était un occultiste français qui était spécialiste dans la Kabbale, mais aussi dans toutes les sciences hermétiques. On sait en toute façon que c'était son secrétaire. Donc, il a appris beaucoup de lui. Mais en même temps, il était intéressé aussi dans la franc-maçonnerie. Donc, il est passé aussi par le Rose-Croix, la franc-maçonnerie, les martinistes, parce qu'il était très intéressé dans l'occultisme en général, mais aussi dans la philosophie. Et donc, son tarot, il est basé sur ses idées.
Et c'est comme ça que Oswald Wirth a commencé à explorer ce thème, l'occultisme, l'ésotérisme.
Oui, c'est ça. Parce que Stanislas de Guetta, il avait beaucoup de livres sur le sujet, des livres qui étaient à ce moment très rares à trouver. Donc, il a appris beaucoup de choses dans son bibliothèque et c'était aussi un peu son maître, si tu veux.
Il a commencé à s'intéresser par le tarot à quelle époque ?
Son premier jeu, il est fait en 1889.
Ok.
Et c'est un jeu qu'il a fait parce que son maître, oui, Stanislas de Guetta, il a un petit peu poussé, oui, à lui de dessiner un tarot. Parce que Wirth, il était aussi un peu artiste. Il était doué pour les dessins. Et donc, sur l'influence de Stanislas de Guetta, il a fait son premier tarot qui s'appelle le Livre de Thoth.
Et pourquoi le Livre de Thoth?
Oui, parce qu'à ce moment-là, tout ce qui venait d'Égypte était très populaire dans les cercles occultes.
Et comment est-ce que Wirth est devenu si connu dans le monde du tarot?
C'est à cause de Wirth qu'on connaît le tarot ésotérique comme on le connaît maintenant.
Oui.
Comme on le connaît maintenant, oui. Parce qu'avant, le tarot, on sait que le tarot est un jeu. C'est un jeu à jouer.
Oui, un jeu de société.
Oui. Bon, avec Kurt Gebelin, qui était le premier qui a écrit ou qui a fait une relation entre le tarot et l'ésotérisme, et après Etea, bien sûr. Mais en général, le tarot ne dit pas un secret, mais c'était dans le cercle secret.
Et lui, il s'est intéressé directement à l'occultisme.
Oui. Oui, il était très, très fasciné par l'occultisme. Et son tarot, quand il a dessiné un tarot où il a tous les dessins, ils ont une signification.
Des 22 arcanes majeurs.
Des 22 arcanes majeurs. Ça aussi, on doit savoir que Wirth a seulement fait les arcanes majeurs, les 22 arcanes majeurs. Okay. Il n'a jamais fait 78 cartes.
Ok. Et donc, il s'est intéressé à la franc-maçonnerie aussi.
Oui. Donc, il était dans les cercles occultes, mais peut-être plus, on peut dire, plus les sciences hermétiques. Et donc, dans l'alchimie, l'astrologie, le symbolisme et tout. Et alors, il est vite devenu franc-maçon et aussi martiniste, aussi une sorte de franc-maçon.
Oui.
Et les Rose-Croix.
Ah oui.
En 1926, il a édité son livre « Le tarot des imagés du Moyen-Âge » avec des planches où il a son deuxième tarot. Mais j'ai vu aussi le même tarot sur des cartons,
oui,
mais moi je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment édité comme ça.
Ah, ok.
Ou qu'il ait collé... Les planches sont collées sur des cartons après, mais ça, je ne sais pas.
Ok, et c'est lui qui a dessiné ce tarot ou c'est...
Oui, parce qu'il était très doué et il a... Donc, Stanislas a demandé de dessiner un tarot. Et ce qui est très important dans l'histoire du tarot, c'est Wirth, qui est le tout premier dans l'histoire, qui met une lettre hébraïque sur chaque carte.
Ah, c'est de là que ça vient, donc, associer les lettres hébraïques au tarot, ça vient de Wirth.
Oui, c'est lui qui était le premier qui a dessiné cette lettre sur les cartes.
Ok.
Mais c'est grâce à Eliphas Lévi, qui était le premier qui a dit, oh, c'est intéressant, les 22 lettres hébraïques, ça correspond avec les 22 arcanes majeurs. Donc, il a toute une philosophie derrière. Et bien sûr, tous les philosophes ou les occultistes de cette période-là, ils se connaissent. Donc, ils sont influencés l'un par l'autre. Mais, en toute façon, c'est Wirt qui est le premier qui a dessiné cette lettre sur les cartes.
Et ça donne une caractéristique toute unique.
À ce moment-là, oui. Parce que Lévi, il disait, toutes les lettres hébraïques ou kabbalistiques,
oui.
Si vous voulez, ils ont une signification. Et Lévi dit, ah, la signification, ça correspond avec le tarot.
Le tarot a toujours eu un regard philosophique, un chemin de vie. Et donc, avec les lettres hébraïques, il a enrichi un peu plus.
Oui.
Et ça case vraiment bien avec les interprétations des arcanes majeurs.
Oui.
Guido, quels sont donc les noms importants à retenir dans l'histoire du tarot?
Il y a Eliphas Lévi,
oui.
Il y a Pappus, il y a Wirt. Donc, trois différentes personnes. Donc, Pappus, il a hérité les livres ou les papiers de Lévi. Donc, Pappus est fort influencé par Lévi, mais aussi Wirt. Lévi, c'est le premier qui fait une relation entre la Kabbale, donc les lettres hébraïques et le tarot.
Combien de livres Wirt a écrit?
Il y a deux livres de Wirt. Il y a un de 1931-1889.
Quel est le nom?
Livre de Thoth.
Livre de Thoth, ok.
Il n'y a pas de livre, hein? Il s'appelle ça comme ça.
Ah oui, mais c'est un jeu de tarot des 22 arcanes majeures.
Ouais, c'est tout. 22 arcanes majeures et c'est tout.
Ok.
Alors, à 1931, il a écrit l'introduction à l'étude du tarot. Et ça, c'est pour commencer. Donc,
c'est ton apprentissage. C'est pour quelqu'un qui veut...
Oui, apprendre. Il n'a pas beaucoup de pages. Il a 50 pages. Donc, c'est un petit livre, mais c'est un livre très intéressant. Mais après, donc maintenant, on est à 1926. Alors, il écrit le tarot des imagés du Moyen-Âge. Et ce livre, il va ensemble avec son deuxième tarot qui est imprimé sur des planches.
Et c'est le premier qu'il fait imprimer sur des planches. Les autres étaient sur des cartons.
Oui. Ah. Le tout premier, il est imprimé sur des cartons en noir et blanc et ils sont colorés à la main.
Magnifique.
Par Wirt.
Et lui, il explique chaque arcane.
Ça, la première fois, c'est en 1931, okay. Dans son livre « Introduction à l'étude du tarot ».
Ah, on trouve les explications. Et ouais.
Donc, mais comme on voit, son deuxième livre sur le tarot, c'est en 1926.
Okay.
Il est beaucoup plus profond, parce que c'est pas un petit livre. Et on voit ici combien de pages on a, plus ou moins 340 pages, mais... C'est donc, je ne vais pas dire compliqué, mais ce sont les sciences hermétiques. Ce n'est pas simple.
Ok, c'est pour des gens déjà initiés.
Oui, il y a des pages sur le tarot et la Kabbale. Le tarot est l'alphabet hébraïque.
C'est en détail, c'est ça.
C'est vraiment en détail.
Ah, oui.
Il y a aussi l'astrologie là-dedans, l'alchimie.
Oui, le programme initiatique.
Oui.
Et il explique à chaque fois les arcanes majeurs.
Oui. Okay. Et pas en deux mots, hein, comme vous voyez.
C'est très bien expliqué, disons comme ça.
Oui. Maintenant, je fais un petit peu publicité, parce que ce livre n'est pas très bon marché. Elle est sur 7 avec le tarot des imagiers du Moyen-Âge et les deux jeux. Mais il existe aussi les deux jeux avec l'introduction à l'étude du tarot.
Ça, c'est très utile.
C'est moins cher. Donc, c'est plutôt pour tout le monde. Donc, les cartes sont les mêmes, la qualité des cartes sont les mêmes. Et le livre, c'est aussi un fac-simile, mais sur son livre de 31.
Thank you.
Nous venons d'écouter un extrait du Requiem de Verdi, l'air de la mezzo-soprano, Libre Scriptus par la voix d'Elena Obratsova. Revenons au sujet du jour, l'interview de Guido Gelabel qui nous raconte l'histoire d'Oswald Wirth, un des précurseurs du jeu du tarot en tant que jeu de cartes initiatiques et divinatoires. Écoutons. Et au sujet de Papus.
Papus, il a le tarot divinatoire et il a le tarot bohémien. Dans le tarot divinatoire, il met le tarot indien de Lévi.
Ah, ok.
Oui, cette image, parce que ce sont les 10... En fait, ce n'est pas un tarot, ce sont les 10 incarnations de Vishnu, mais ils ont toujours pensé que c'était le tarot indien de Lévi. Mais c'est parce que Papus, il a hérité, pas tout, mais il a quand même hérité un nombre des documents et tout de Lévi. Je ne dis pas que Lévi était son maître, mais c'est un homme important.
Il s'est inspiré.
Oui, il était inspiré par Lévi, mais il se connaissait. Parce que Papus, il a trouvé cette image de Vishnu.
Ah oui.
Et Papus, il a pensé, parce que c'était numéroté, que c'était un tarot. Un tarot indien que Lévi a commencé à faire. Maintenant, on sait que ce n'est pas vrai. Parce que ça vient d'un livre du XVIIIe siècle sur les religions.
Oui.
Mais c'est toute une explication.
Hein, oui.
Parce que Lévi, il traduit beaucoup de livres en français. Et donc, il a traduit aussi un livre en français où on trouve cette image de 10 incarnations de Vishnu.
Ah, mais c'est magnifique. C'est quand même intéressant. Et alors, il s'est inspiré quand même pour le tarot.
Papus pensait que c'était un tarot,
mais ce n'était pas,
le cas.
Okay.
Papus a bien aimé que c'était la vérité.
Oui,
on ne peut pas dire. Hein. Mais donc, il pensait que c'était un tarot indien de Lévi.
Et ce n'était pas le cas.
Et il en a 5. Et moi, j'avais trouvé tous les 10, ils sont là aussi maintenant.
Oui.
Et tous les 10. Mais ce n'était pas un tarot. En fait, ça n'a rien à voir avec
un tarot. Avec le tarot.
Mais pendant des années, c'est ici, dans la grande encyclopédie du tarot de Kaplan, il est marqué, voilà, tarot indien. Cette carte figure dans le tarot divinatoire de Papus à 1909. Donc c'est toute la période aussi de Wirth. Hein.
Il le suivait en fait, le courant.
Les occultistes en France, ils se connaissent ça. Parce que beaucoup plus tard, aussi dans cette période-là, Wirth était au château de d'Avenières. Hein. C'est intéressant à savoir aussi. Donc, on a le château des Avenières en France, qui était dans les montagnes, à 20 minutes de Genève. Et dans ce château, il y a une chapelle. Et je dis, plus au début du XXe siècle, ils étaient des occultistes qui ont vécu là et ils voulaient commencer une sorte de religion, une nouvelle religion où toutes les religions viennent ensemble. Et Wirth, il était là aussi. Et ça, on voit parce que dans la chapelle, il y a sur les murs un tarot de les 22 arcanes majeurs en mosaïque. Et on voit très bien la main ou l'influence de Wirth dans ce tarot-là.
Magnifique.
Pour le moment, c'est un hôtel de 4 étoiles, mais c'est possible, quand vous passez, de visiter la chapelle.
C'est très intéressant tout ça que tu racontes, parce que Wirth était donc, depuis toute sa jeunesse, baigné dans toute sa vie. Et c'était sa passion de vie, et il vivait de sa passion, il vivait du tarot, il vivait de...
De tarot, ça...
Quelle était sa profession?
Je sais qu'il était longtemps secrétaire de Stanislas de Guetta, donc il était payé par Stanislas.
Il est devenu occultiste, il est devenu franc-maçon, mais aussi, il était aussi adepte de la Rose-Croix. C'était un mystique.
Oui, sûr et certain.
Et les livres d'Oswald Wirth se trouvent où maintenant?
Donc, on a ici dans le musée, j'ai l'original de livre de Thoth. L'original, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup qu'on sait qui existe encore. On dit que Wirth a fait 100 exemplaires, mais moi, je sais qu'il y a un aux Bibliothèques nationales à Paris, il y a un au British Museum, et je connais un collectionneur japonais qui a un exemplaire. il y a 2 ans qu'il y a un exemplaire qui est vendu sur eBay et il y a un ici. Et il y a maintenant, mais je ne sais plus combien des années, mais je vais dire 6-7 ans, il y a Guy Ritchie, le réalisateur, ou
le réalisateur, oui.
des films,
oui.
Qui a commencé à son film Sherlock Holmes, Game of Shadows, with Jude Law. Alors, il savait que ce jeu est ici, et il voulait absolument ce jeu-là dans son film. Et alors, donc, ce jeu-là, donc le jeu de Wirt de 89.
Qui fait partie de ton musée, de ta collection.
Oui. Et je l'ai envoyé en Angleterre pour enregistrer.
Pour enregistrer, pour...
cette scène-là.
Oui.
Et après, ce jeu est revenu ici.
Oh, mais c'est magnifique.
Je dois juste dire une chose. Ils ont un petit peu chipoté dans le film, parce que maintenant, avec l'ordinateur, on peut faire tout. Donc, on sait que Wirt a fait seulement les arcanes majeures. Et dans le film, vous voyez que la gitane, elle tire aussi les deux des coupes.
Ah, voilà.
Mais ça, ils ont dessiné eux-mêmes en ordinateur. Et le dos des originaux, c'était vert, égal. Et dans le film, il y a un dessin. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont changé.
C'est de nouveau, oui, c'est que...
Et c'est
actuel.
C'est très important.
Oui.
Et oui, officiellement... Et sur les cartes, c'est lui qui est le tout premier qui a, je dis pas mélangé, non, qui a ajouté la cabale sur le tarot.
Voilà.
Et on sait que, et qui était aussi marié avec Madonna, est très intéressé au cabale.
Voilà. Merci beaucoup, Guido. C'était vraiment un plaisir de te interviewer encore une fois aujourd'hui. Et donc, je suis très contente des 13 explications au sujet de Oswald Wirt. Merci Guido.
Avec plaisir.
Thank you.
Nous venons d'écouter encore un extrait du Requiem de Verdi, In Gemisco, avec l'extraordinaire voix de Luciano Pavarotti. Et voici l'arcane du numéro 16 qui se nomme La Maison Dieu ou La Tour. Voici ce que j'ai lu dans le livre dédié au tarot des éditions Tachin. Dans le tarot, la tour ou maison Dieu représente l'élimination de la négativité afin de libérer la voie pour l'ascension spirituelle décrite par les derniers atouts. Cet atout invoque l'embrasement de l'orgueil et de l'égoïsme nécessaires pour atteindre l'âme des raisons. C'est la purification ouvrant la voie vers l'étoile. Les symboles de cet arcane sont construction en pierre, flamme, feu, corps qui tombe, pièce d'or. Un puissant éclair a incendié une tour. Les flammes sortent des fenêtres de pierre. Les gens terrifiés se jettent dans le vide cherchant à fuir la destruction et l'écroulement imminent. D'autres éléments déboulent de l'édifice. Des briques, des pierres, des pièces d'or, des gouttes d'eau et des flamèches. Dans certains jeux, la tour possède une porte. Dans d'autres, sa façade lisse est dépourvue d'entrée et de sortie. Derrière le monument qui s'effondre, se dresse une montagne rocheuse incarnant la nature, indifférente au terrible drame qui se joue sous ses yeux. Quels sont ses attributs ? La carte de la tour ou la maison Dieu représente le besoin de se défaire des anciennes structures pour laisser place aux nouvelles. La destruction des murs de pierre de la tour marque un changement brutal. La carte symbolise des bouleversements radicaux, une transformation révolutionnaire qui ébranle les fondations fragiles et bouscule les traditions. Continuer sur l'ancien chemin n'est plus viable. Des fissures apparaissent, le ciel s'ouvre, des briques se désintègrent. Parfois, la carte assise arrive de façon subite et inattendue. Il n'y a pas d'issue. Le chaos, le désordre et une faille due à un éclair de lucidité. Peu importe la méthode, l'illusion doit être et sera brisée. Des mondes s'abattent et se redressent. La méfiance se dissipe, la perspective change violemment, et lorsque la poussière change violemment, et lorsque la poussière retombe, les premiers bourgeons pointent des ruines. Voici les mots-clés de cet arcane. Changement, remise en question, crise d'identité, destruction, reconstruction, régénération. Voici ce que dit le livre de Wade Smith. Voler en éclats. Un monde qui s'écroule, pas comme on pensait. Choc, destruction, remise en cause soudaine, jeter dehors, claquer la porte, ouvrir les yeux d'un coup, se rendre compte brutal de la réalité des choses. Apocalypse dans le son des révélations. Et voici une phrase interpellante tirée de l'Internet. Parce que la vie est un perpétuel recommencement, nous n'en avons jamais fini avec l'amour. Et c'est avec ces mots que nous arrivons à la fin de notre émission Le Chariot d'aujourd'hui. Nous avons rendez-vous le 7 novembre prochain, toujours à 14h30, sur Radio Panique 105.4 FM. Au revoir. Thank you.